C'est bon?
Parfait.
Hervé Stassinos.
Alors voilà, il est 14h, donc bonjour à toutes et tous. Nous allons pouvoir débuter cette séance de conseil municipal. Et nous allons commencer par l'appel de l'Assemblée. Et je vous propose que Marine Desideri, qui est notre Benjamine aujourd'hui, procède à l'appel du conseil municipal.
Alors, Hervé Stassinos.
Présent.
Valérie Riaillan. Jean-François Plane, présent. Cécile Gomez, présent. Jean-Michel Perratou, présent. Bérénice Bonal, présent. Jean-Claude Vega, présent. Agnès Biasuto, présent. Pascal Campens, présent. Magali Vincent, présent. Christian Garnier, présent. Martine Clopin, présent. Jacques Paganelli, présent. Patrick Roisse, Serge Venet, présent. Chantal Jauvert, présent. Isabelle Roger, Jean-Marc Illich, présent. Stéphanie Assionne, présent. Eric Galliano, présent. Graziella Piras, présent. Thomas Michel, présent. Cédric Giner, présent. Marine Desideri présente, Émilie Roy, Denis Tindil, présent. Armand Cabrera, présent. Martine Cabot, présent. Bernard Pezzeri, présent. Eric Joffre, présent. Marina Brandino, présent. Lionel Riquelme, présent. Et Valérie Pozzo di Borgo.
Merci. Et donc, j'ai reçu les pouvoirs de Madame Pozzo di Borgo pour Bernard Pezzeri, de Patrick Roisse pour moi-même et d'Émilie Roy pour Valérie Rialan. Le quorum est donc atteint. Merci pour cet appel. Le quorum étant atteint, je vous propose de débuter cette séance de conseil municipal en commençant par valider le PV du dernier conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, avant de commencer cette séance de conseil municipal, je pense que vous êtes tous au courant que le tribunal administratif a rendu donc son jugement. Donc, il a bien sûr validé les élections de juin 2020, ce qui nous permet de travailler continuer à travailler en toute confiance pour ce prochain mandat, qu'on espère réussir au moins aussi bien que le premier mandat. Je voudrais en profiter pour dire que, bien sûr, c'est le droit de chacun de faire un recours, c'est le droit de chacun de voter contre un PV ou un compte-rendu de conseil municipal. Comme fait des petites recherches, juste pour information, on avait voté ensemble un règlement intérieur qu'on avait validé ensemble, qu'on avait voté ensemble, on avait eu l'unanimité sur ce conseil municipal. Et il était bien stipulé que la séance est enregistrée et cet enregistrement tient lieu de compte-rendu. Il est mis en libre accès sur le site de la commune. Donc je crois que vous avez décidé de voter contre ce compte-rendu pendant toute la durée du mandat. C'est bien sur votre choix. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un peu comme une élection municipale. On peut à un moment accepter les règles et puis parce que le résultat ne convient pas, remettre en cause les règles. Mais enfin, il y va du compte-rendu de conseil municipal comme des élections. On se met d'accord sur des règles. Je pense qu'il faut savoir jouer jusqu'au bout de façon fair play. Voilà. Après, c'est votre droit, bien sûr. Vous avez le droit à la fois de faire un recours, pas de souci. Vous avez aussi le droit de voter systématiquement contre un PV sur lequel vous avez pourtant ensemble défini les règles d'établissement du PV. Voilà. Écoutez, c'est votre choix. Ça sera au printemps de juger à nouveau à la fin du mandat quels ont été les apports des uns et des autres. Monsieur Pezzeri.
Oui, bonjour tout le monde. Oui, donc vous faites un mélange de gens qui ne me plaît pas trop, mais ça c'est votre habitude, donc je crois que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Nous n'avons pas remis en cause les conditions, du moins les règles électorales. Nous avons considéré qu'il y avait des choses qui nous paraissaient ne pas y répondre. Le tribunal administratif en a décidé autrement. Comme je l'ai dit, j'ai pu même vous l'écrire, je n'ai pas eu de réponse d'autre part, donc ça aussi c'est une habitude. Nous en prenons acte et nous allons accompagner l'avis du Pradé avec nos positionnements, même si celui-ci peut vous paraître bizarre au niveau du vote des conseils municipaux, je pense qu'il y a une possibilité de faire autrement. Donc c'est pour ça que nous votons contre. C'est peut-être un changement d'avis, mais je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Merci. Allez, on va passer au monsieur Riquelme.
Oui, merci monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, je souhaitais, si vous en êtes d'accord, faire une intervention sur le précédent conseil municipal. J'ai voté pour le compte rendu, mais il y a une délibération sur laquelle je souhaiterais revenir un instant. Est-ce que vous en êtes d'accord ?
On vous écoute.
Merci. C'est la délibération numéro 21 relative à la convention de subvention pour l'opération immobilière L'Ensoleillée. Vous avez bien voulu m'apporter une réponse écrite le 5 février concernant cette délibération, puisque j'avais évoqué lors de la séance une incompréhension sur les montants qui étaient évoqués sur l'article 3 de la convention, qui, je le rappelle, indiquait des prix, des coûts du foncier, du bâtiment et des honoraires. Et donc, on s'est aperçu, vos services se sont aperçus qu'effectivement, il y avait bien une erreur, parce que ces montants me paraissaient être étonnants, notamment, je les rappelle, le foncier, c'était 3,8 millions, le bâtiment, 184 000 euros, et les honoraires, 85 000 euros, qui faisaient un total de 4 millions et quelques. Et la réponse qui m'a été apportée, c'est « Eh oui, effectivement, il y a une erreur. Le foncier, c'est pas 3,8 millions d'euros, mais c'est 1,3 », ce qui n'a rien à voir. Le bâtiment, donc, qui correspond à la construction, etc., c'est pas 184 000 euros, mais c'est 2,6 millions, ce qui n'a absolument rien à voir. Et les honoraires, eux, par contre, c'est le bon montant, 85 000 euros. Donc, pour un total de 4,1 millions, on retombe par un heureux hasard sur le même montant. Ça, on y comprend. Enfin bon, pourquoi pas, c'est la magie des chiffres. Mais quoi qu'il en soit, moi j'aurais aimé avoir une explication quand même, parce que la dernière fois, on n'avait pas pu en discuter parce que vous n'aviez pas les éléments. Là, la réponse, je vous en remercie, l'éclairage a été apporté, mais heureusement, parce que j'imagine que vous n'avez pas signé la convention en l'état, puisqu'elle est, elle était fausse, et que vous allez représenter une délibération concernant cette convention. Parce que le mail qui m'a été adressé vendredi me dit il n'y aura pas de délibération, de nouvelle délibération. Et là, je suis en désaccord sur ce point, dans la mesure où la convention, c'est le conseil municipal qui vous autorise à la signer. La convention, elle a des termes précis et des montants précis, avec un calcul, évidemment, de la participation de la commune à un opérateur privé de l'ordre de 300 ou 400 000 euros, basé sur ce bilan d'opération. Et le bilan d'opération, il était complètement erroné de ce que vous nous avez présenté. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc voilà, ça, je souhaitais que tous mes collègues soient quand même au courant de cette erreur, parce que là, c'est pas une broutille, hein, c'est pas une virgule, c'est pas un euro ou deux, c'est carrément des chiffres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc c'est quand même assez étonnant. Et deuxièmement, j'aurais souhaité, après cette explication, que vous soyez d'accord pour réinscrire une délibération qui nous permettra de valider la bonne convention et qui vous donnera l'autorisation donc de la signer. Je vous remercie.
Monsieur Riquelme et mes chers collègues, bonjour à tous. Monsieur Riquelme, comme vous l'avez signalé, le montant total de prix de revient prévisionnel de 4 134 593 euros était le bon. Vous l'avez dit vous-même.
C'est un heureux hasard.
Donc, dans les détails, on vous a fourni... Je vous demande de ne pas m'interrompre. Je ne vous ai pas interrompu, malgré le flot de paroles qui, parfois, est un peu exagéré à mon sens. Alors, pourquoi ? Vous insistez sur des détails en disant que ce sont des vrais problèmes. Est-ce que le montant total était le bon ? Oui, le montant total était le bon. Est-ce qu'on a voté quelque chose d'erroné par ailleurs ? Non. Dans la convention, du moment que le montant, le chiffre total est correct, je ne vois pas où est le souci. Et d'ailleurs, légalement, il n'y a pas de souci. Donc, nous n'allons pas reproposer de convention. Ensuite, c'est votre choix de ne pas venir au niveau de, en commission où on vous explique absolument tous les détails. Ça éviterait de poser des problèmes faux en pleine séance du conseil municipal. Juste pour parce que vous n'avez pas d'autres points évoqués, je pense. Voilà, vous n'êtes pas présent en commission. Vos collègues le sont. On a tous un travail par ailleurs. Comme vous l'avez souligné la dernière fois, vous avez dit « Ah oui, mais moi j'ai un travail, monsieur Riquelme. » On a tous un travail. Vos collègues de l'opposition, ils ont un travail aussi. Ils sont là à chaque fois. C'est une question de choix. C'est le choix que vous avez fait de vivre votre mandat comme ça également. C'est votre choix. Il y a des choix à faire par moment. Soit on est présent en commission, on fait son travail, soit on n'est pas là en commission et puis après on pose des questions devant tout le monde. Je garde au bras des temps le loisir de voir pourquoi vous faites comme cela. Voilà, c'est tout.
Merci Valérie. Donc on a répondu à vos questions. Je vous propose de continuer l'ordre du jour.
Excusez-moi.
Monsieur Riquem, allez-y.
Merci monsieur le maire.
Et après on passera aux robes.
Je vais me permettre de répondre. Premièrement, vous n'avez pas répondu à ma question. Là on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. La présence de monsieur Riquem à la commission d'aménagement de la semaine dernière. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a une convention qui a été présentée par vous-même avec des chiffres erronés. Aujourd'hui, vous ne m'apportez aucune explication. 3,8 millions, 1 million, et vous, ça vous paraît tout à fait normal, madame Rialand. Ben, vous avez une drôle manière d'aborder les opérations immobilières. 3,8 millions, 1,3. Il y a quand même une sacrée différence. 184 000 euros, ah non, c'est pas ça, c'est 2,6 millions d'euros. Aucune explication rationnelle. On est là pour avoir de la transparence, pour expliquer auprès des temps pourquoi la participation financière de la commune est d'un tel montant. Cette opération immobilière, vous savez, elle a une importance capitale pour le Pradé et les résidents du quartier concerné. On ne peut pas prendre ça à la légère. Donc n'essayez pas de me parler d'un autre sujet, j'y répondrai également, mais qui n'a absolument rien à voir. Répondez avec précision pourquoi ces chiffres étaient complètement erronés et pourquoi vous avez présenté à l'ensemble des conseillers municipaux une délibération qui était absolument fausse, basée sur un bilan d'opération immobilier faux. Expliquez-vous. Ne partons pas sur autre chose. Deuxièmement, pourquoi ne présentez-vous pas une nouvelle délibération au conseil municipal? Demandez à la préfecture son avis s'il le faut. Moi, je suis prêt à l'entendre. Mais posez au moins la question. Troisièmement, et j'en terminerai, la commission d'aménagement, effectivement, je n'y suis pas venu parce que je suis allé le lendemain à la commission éducation qui est organisée par une adjointe qui, elle, est capable de comprendre qu'à 17h, c'est mieux qu'à 15h30 en plein milieu d'après-midi parce qu'effectivement, on a des contraintes professionnelles les uns et les autres. Et moi, j'ai dit à personne que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein. Chacun fait comme il le peut et comme il le veut. Maintenant, moi, venir systématiquement à 15h30 en plein milieu d'après-midi, je ne peux pas le faire systématiquement. Là, cet après-midi, je suis avec vous, mais je ne peux pas toutes les semaines être absent de mon travail. Non, je suis désolé. Maintenant, vous ne souhaitez pas faire évoluer vos horaires. Bon, ben, je m'adapte. Personnellement, je ne même vous le reproche pas. Mais vous m'attaquez systématiquement là-dessus. Pourquoi vous n'êtes pas à 15h30? Ben, parce que je ne suis pas là. Parce que j'ai un travail, et effectivement, à ce moment-là, je ne suis pas là. Sinon, je viendrai bien volontiers, hélas. Et pourquoi vous n'êtes pas capable de faire comme des collègues à vous qui sont, responsables comme nous et qui, eux, organisent des commissions à 17h? Eh bien, impeccable, j'y étais. D'ailleurs, c'était très clair. J'en remercie Mme Gomez, puisque les sujets ont été évoqués. Et j'ai pu m'exprimer sur chacun d'entre eux. Mais quoi qu'il en soit, ce point-là n'était pas à l'ordre du jour de la commission d'aménagement de la semaine dernière, je vous le rappelle. Donc ce n'était pas le sujet de la commission à laquelle je ne participais pas.
Pas d'autres prises de parole? Non? Voilà. Bon, Valérie avait déjà répondu à toutes vos questions. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. On a pas mal de points importants. Il y a notamment l'Europe, et puis il y a aussi, on parlera dans l'occasion de repasser de loi et SRU. Donc, premier point à l'ordre du jour, c'est le fameux ROB hein, qu'on fait tous les ans. C'est le débat d'orientation budgétaire sur les grandes orientations de la commune. Donc, écoutez, globalement, une fois de plus, on valide aujourd'hui avec ce ROB une gestion saine de la commune qu'on a eue sur tout le premier mandat et qu'on poursuit sur ce deuxième mandat. Alors c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de questions qui se posent sur le budget. Je crois que ce Rob est là pour apporter un certain nombre de réponses sur les questions qui avaient été posées au préalable et donner une perspective surtout sur l'année 2021. Ce qu'il faut retenir de ce Rob, qui découle aussi des résultats 2020, c'est qu'une fois de plus, on est capable de présenter à l'ensemble des prédétants des résultats qui démontrent une gestion saine et équilibrée de la commune, une gestion bon père de famille. Le seul point noir, il y a quand même un point noir dans ce ROP, c'est la décision de la préfecture le 24 décembre 2020 d'augmenter la pénalité de la commune et de doubler cette pénalité, j'y reviendrai, qui passe à 600 000 euros. Hormis cette décision de l'État concernant la commune du Pradem et qui concerne en fait toutes les communes de la métropole, puisque toutes les communes de la métropole ont été mises en carence, au-delà de ce point particulier de la carence et de la pénalité SRU, le budget présente en 2020 beaucoup d'excédents, une gestion saine, une gestion équilibrée, et puis on espère pouvoir continuer en 2021. Alors, on commence avec les impôts et les taxes. Alors, les impôts et les taxes, bien sûr, on vous propose, dans le cadre de ce ROP, de ne pas augmenter les taux d'imposition. Je vous rappelle qu'en fait, la taxe d'habitation n'existe plus pour 80% de nos administrés, qu'il y a un premier dégrèvement de 35% cette année, suivi de 65% en 2022, et ça devrait totalement disparaître en 2023, en tout cas on l'espère. Il nous reste donc comme seule taxe vraiment communale la taxe foncière. Tout le reste disparaît. Il y a un système d'équilibrage avec les taxes foncières perçues par le département, un système de coefficients pour récupérer à l'euro près, pour les communes, la perte de la taxe d'habitation. Donc on a beaucoup d'inquiétudes à un moment, il semblerait qu'elle soit levée, ce qui permettrait à la commune de percevoir le même niveau de recettes qu'auparavant en ce qui concerne les taxes, ce qu'on appelle les taxes ménagères, c'est-à-dire la taxe foncière et feu la taxe d'habitation. Alors ensuite, dans la suite du ROB, on va parler bien sûr des dotations. C'est un autre élément important du fonctionnement de la commune en termes de recettes. On a d'abord les impôts qui représentent une somme conséquente de près de 15 millions d'euros. Il y a ensuite la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Je rappelle qu'elle a été diminuée depuis 2014 de l'ordre d'un tiers, c'est-à-dire 1,4 million sur un mandat. Bon, on constate qu'elle est en fait affaiblie parce que elle est stable. Donc quand on prend compte de l'inflation, la DGF en monnaie réelle, en fait, elle se dégrade dans le temps. Et il y a surtout les pénalités SRU qui s'impactent sur ces dotations. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est cette dotation globale de fonctionnement qui se situe en gros à 1 150 000. Elle devrait être stable sur l'année 2021. Ensuite, bonne surprise de l'année 2020, ce sont les taxes, ce qu'on appelle communément, à tort d'ailleurs, la taxe des notaires. C'est en fait la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Alors, année un petit peu exceptionnelle au Pradet, due d'une part à l'attractivité qu'on a réussi à renforcer au travers des années sur ce premier mandat. On a renforcé l'attractivité du territoire. Ça fait qu'il y a beaucoup de demandes pour venir vivre et habiter au Pradet. Du coup, on a la chance d'avoir un marché de l'immobilier qui est extrêmement attractif. Vous le savez, parce que vous êtes très nombreux à venir me voir en disant « j'ai un ami qui cherche à venir habiter au Pradet ». Ah oui, bah, le résultat, c'est l'attractivité du territoire qui se traduit par les droits de mutation élevés. Dans ces droits de mutation élevés, qui sont plus de 500 000 euros ou 600 000 euros par rapport à une année normale, il faut aussi noter la vente de la maison Rocabella, qui elle seule présente la modique somme de 15 millions d'euros quand même. Donc ça aide à avoir des droits de mutation sur une année extrêmement forts, ce qui nous est arrivé en 2020. Il est fort à parier que 2021, on n'aura pas les mêmes droits de mutation. Et toujours dans cette logique de gestion en bon père de famille et d'une prévision prudente des finances, on est revenu en 2021 à des droits de mutation qui correspondaient en gros à ce qui se passait en 2016-2017. C'est-à-dire qu'on les cale sur 800 000 euros, ce qui paraît un peu plus raisonnable que ce qu'on a eu cette année, même si ça reste une bonne nouvelle et que ça fait du bien aux finances de la commune. Là encore, c'est un signe fort de bonne gestion de la commune en termes d'attractivité de notre commune. Moi, je suis très très content qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent venir s'installer sur notre territoire. Ensuite, le fonds de péréquation intercommunale et communale, qui est stable. Il sera stable en 2021, pas de grande surprise de ce côté. Ensuite, la dotation de solidarité communautaire, qui est fixée à 98 000 euros, qui ne changera pas en 2021. Ça, c'était pour la partie recettes. Donc, ce qu'il faut retenir de cette partie recettes, c'est que bon, une année un petit peu exceptionnelle en 2020, notamment grâce aux droits de mutation, une année 2021 qui devrait revenir à la normale, même si ça reste très attractif au niveau immobilier, que les droits de mutation pourraient être peut-être un petit peu la hausse, on préfère prendre un positionnement un petit peu prudent et limiter les recettes de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année 2021. C'était pour la partie recettes. Si on passe aux charges maintenant, alors on peut constater qu'en 2020, les charges à caractère général étaient un petit peu plus faibles en 2020. Ça s'explique bien sûr par le confinement, moins d'animation, moins d'heures supplémentaires, moins de services ouverts. Donc une activité communale un petit peu réduite en 2020, une année électorale aussi. Donc moins d'activité en 2020. On anticipe sur 2021 un peu plus de charges à caractère général. Peut-être une reprise aussi. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pu faire en 2020 parce que les services étaient fermés ou qu'il y avait un dysfonctionnement de l'économie. On sera peut-être amené à 2021 à faire une année un petit peu plus forte que ce qu'on a vu en 2018-2019. Mais là encore, l'avenir nous le dira. Concernant les charges de personnel qui font toujours lieu de débat, ce qu'on peut constater, c'est que pour la 7e année consécutive, on reste vraiment sur la même ligne de conduite. Maîtrise des dépenses, on sait que c'est le plus gros poste de dépenses de la commune, donc maîtrise des dépenses et encore maîtrise des dépenses. Donc on est sur un, je crois qu'au budget on doit avoir 7,4 millions ou 7,5 millions comme on fait tous les ans, gestion prudente, et on finit à 7,1 millions sur le poste de 0,12, le poste de dépenses en termes de ressources humaines. Malgré le GVT, malgré aussi la mise en place de tickets restaurants, alors pourquoi ça avait fait l'objet d'un vote en conseil municipal qui avait recueilli l'unanimité des suffrages. L'idée de mise en place des tickets restaurants, c'était bien sûr de redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux agents. C'était aussi dans un souci d'équité par rapport aux agents qui avaient été transférés à la métropole qui bénéficiaient des tickets restaurants, d'assurer une équité vis-à-vis des agents. Voilà. Donc 2021, une poursuite de cette maîtrise des dépenses des ressources humaines, malgré un certain nombre de mesures qui ont été prises par l'État, le RIFSEP, la revalorisation salariale, un certain nombre de sujets. Voilà. Donc maîtrise des dépenses, c'est ce qu'il faudra retenir sur ce poste 0,12. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, l'année prochaine, on va continuer à maîtriser ces dépenses de personnel. Alors on sera peut-être amené à recruter, peut-être pas. Il y a pas mal de départs en retraite qui vont se faire sur le mandat. On en profitera, comme on a fait sur le premier mandat, pour réorganiser les services. Mais on arrive quand même un petit peu au bout de l'exercice. On a réussi à bien restructurer les services sur le premier mandat. On a modernisé, on a informatisé, on a fait ce qu'on a pu. Puis à un moment où, pour aller chercher 1 ou 2 ou 3%, ça devient un petit peu plus difficile. Je crois qu'on n'est pas loin d'y être arrivé. Toujours des petits efforts, certainement des ajustements à faire pour être encore plus efficace, pour rendre un service public de qualité. Mais sur ce deuxième mandat, autant sur le premier mandat, il y avait un vrai travail de gestion à faire sur les finances de la commune. Sur le deuxième mandat, on va continuer ce travail de gestion, mais on va surtout optimiser le service rendu au Pradétan et au Pradétan. Voilà, donc il y a tous les détails sur la répartition des effectifs en termes de parité homme-femme, en A, B, C. Donc vous avez dû prendre connaissance de ce rapport. Puis après, j'essaie d'être bref, de manière à laisser la place au débat, comme c'est prévu par le texte législatif. Il y a ensuite l'attribution de compensation. Donc l'attribution de compensation, c'est en fait un système de compensation par TPM lié au transfert de charges et de compétences liées notamment au passage en métropole. Donc on est en train de discuter. Vous savez, je le rappelle, parce qu'il y aura certainement des questions là-dessus, c'est bien légitime. Quand on est passé en métropole, il y a eu des sujets autour du coût des transferts et des recettes liées au transfert de ces compétences. Donc il y a des calculs qui sont faits entre le coût des compétences transférées, les recettes des compétences transférées, notamment pour les ordures ménagères, mais pas seulement. Et donc ces calculs ont donné lieu à l'établissement de ce qu'on appelle une collecte. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais enfin c'est une collecte en tout cas, et qui permet d'ajuster en fait les transferts de compétences et que le transfert soit neutre à la fois pour les métropoles et pour les communes. On a maintenant 3 ans de recul après le passage en métropole de 2017. Ça permet d'ajuster ces calculs qui avaient été faits à l'époque, d'ajuster a posteriori les vrais coûts et les vraies dépenses. Et il y a un travail qui est fait par la métropole avec chacune des communes pour ajuster ces coûts, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc à certaines communes qui avaient surestimé les coûts, les recettes ou les charges, d'autres qui avaient surestimé ces recettes ou ces charges. Donc chaque commune a retravaillé avec TPM pour établir exactement quel était le niveau de recette, quel était exactement le niveau de charge pour chacune de ces compétences, de manière à revoir ce qu'on appelle une clause de revoyure, revoir les attributions de compensation pour que ce soit équilibré à la fois pour les communes et pour la métropole pour ne léser personne. Et ça pour chaque commune, pour chaque territoire, de manière à s'assurer une équité pour chacun des territoires et chacune des communes. Ensuite, on a donc, alors donc ça représentera un coût pour nous a priori de 150 000 euros l'année prochaine par rapport à 2020, mais c'est encore en cours de discussion avec TPM. Après, on aurait toujours pu essayer de rester sur le même niveau de dépenses, mais peut-être en dégradant le niveau de service qu'on offre auprès des temps. Ce n'était pas un choix de l'équipe en place. On a souhaité maintenir le niveau de service public. Donc, on sera probablement amené à revoir le niveau de la CLECT un petit peu à la hausse par rapport à ce qu'on avait anticipé, de manière à améliorer encore la qualité du service public rendu à nos administrés et à nos chers auprès des temps. Alors, les autres charges de gestion courante, c'est tout ce qui est participation des organismes publics ou privés, des indemnités des conseillers municipaux, d'évolution majeure. Peut-être en 2021, il y a pas mal d'associations qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas proposé de projet. Vous savez qu'on est passé depuis 3-4 ans à des subventions qui sont sous respect de certains objectifs à atteindre. Il se trouve que malheureusement, pour beaucoup de personnes, notamment pour les adhérents de ces associations, il n'y avait pas forcément d'activité. Qui dit pas d'activité, pas de projet, pas de projet, pas d'activité, pas de sous. Donc, en accord avec les associations qu'on a reçues, on a décidé de ne pas verser forcément de le montant qui avait été versé en 2021. Alors, soit on l'a réduit à zéro avec l'accord des assos, soit on l'a diminué toujours avec l'accord des associations. L'idée, c'était de ne continuer à donner des subventions qu'aux associations qui en ont vraiment besoin. Et pas que les associations fassent de la trésorerie pendant un an alors qu'il n'y a pas d'activité. Mais bon, ça s'est fait en pleine concertation avec le tissu associatif, bien sûr. L'idée, c'est aussi de respecter l'esprit de la loi qui fait que quand on subventionne une association, c'est parce qu'il y a des services à rendre à la commune. Donc s'il n'y a plus d'activité, c'est toujours un petit peu difficile d'aller subventionner les associations qui l'ont bien compris. Il y en a même qui ont proposé d'elles-mêmes de réduire les subventions, qui nous ont quand même demandé une aide, parce que certains ont des salariés à temps complet qui ne bénéficient pas des dispositions mises en place par l'État. Donc il fallait bien aussi soutenir le tissu associatif, comme vous l'avez vu au travers de la campagne qu'on a menée pour nos restaurateurs, soutenir les restaurateurs. Je crois qu'on a besoin d'être unis dans ces moments qui sont des moments difficiles pour tout le monde, d'être unis pour le tissu associatif, d'être unis pour nos amis restaurateurs. On pense à eux très fortement, ils souffrent, ils ne sont pas les seuls. On espère qu'on va vite sortir de ce petit Covid pour retrouver une vie normale. Voilà, j'en ai fini avec les charges de gestion courante. Bon, je vous ai parlé du prélèvement SRU, on ne va pas y passer des années, quoique on est parti pour y passer des années, mais en fait, je voudrais simplement rappeler le coût pour la commune. Le coût, il est immense, il est énorme. On a un super budget, on gère la commune de façon saine, équilibrée, et il y a le gouvernement qui vient nous voler, il n'y a pas d'autre mot, il vient piquer 600 000 euros dans la poche des prêts des temps. 600 000 euros par an pendant 6 ans, c'est 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. On parlera du projet Marcel Pagnol tout à l'heure. En gros, le projet, c'est 10 millions d'euros. Donc, la moitié du projet Pagnol n'existe plus. Alors, on va trouver des solutions, mais enfin, quand même, la sanction est très lourde. Elle est injuste, elle est lourde, et elle est très pénalisante pour les contribuables près des temps, parce que ce n'est pas le maire ou ses adjoints ou son équipe communale qu'on embête, ce sont les près des temps. Ce sont des contribuables près des temps à qui on vient reprendre l'argent. Alors ils font des cadeaux là-haut, à coups de milliards, on ne sait même plus où on en est, 350 milliards pour 2020. Alors là-haut, ça distribue à volo, et au niveau local, c'est toujours plus. Donc on vient ponctionner les finances locales pour alimenter la caisse de l'État. Et malgré ça, ils arrivent encore à nous faire 5-6% de déficit. Alors moi, je propose au gouvernement qu'il vienne prendre exemple sur l'ensemble des communes de France, parce que nous, on est obligés de voter nos budgets à l'équilibre, qu'il vienne prendre exemple sur les collectivités locales et qu'après, ils viennent nous donner des leçons. Voilà, je ne vais pas être trop long sur le sujet, mais vous dire 4 millions d'euros, ils ont vraiment du mal à passer. Parce que ce sont des projets en moins pour la commune. Alors trouver des ressources complémentaires, ça ne va pas être facile. Alors pour 2021, ça va encore aller. Enfin, je trouve que la sanction est vraiment lourde. Je note, pour finir, je note simplement que toutes les communes de la métropole sont impactées, elles sont toutes en carence aujourd'hui, et j'en connais au moins 2 sur 12 qui vont être obligées d'augmenter leurs impôts du fait de cet alourdissement de la pénalité SRU. Voilà. Et j'en arrête, parce que sinon on va s'énerver, c'est pas le but du jeu. Il faut retenir de façon plus positive qu'on a vraiment des finances locales qui sont extrêmement saines, extrêmement équilibré et qu'en 2021, malgré cette mauvaise nouvelle qui nous est arrivée en fin d'année, on a un budget qui est vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de communes qui rêveraient d'avoir un budget aussi bon. On parle notamment de la dette, on le voit aujourd'hui, 2 ans pour rembourser la dette. Franchement, il y a beaucoup de communes qui aimeraient avoir ce type de bilan au bout d'un mandat. Voilà, donc la dette, elle continue à diminuer. On va rembourser 1 million encore cette année. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est moins de remboursement d'emprunt. On descend encore en termes de dette en euros par habitant. On est très en deçà de la moyenne nationale. On a réussi, je crois que c'était en 2016-2017, on a réussi à passer au niveau de la moyenne nationale. Et vous voyez, depuis, on a fait un petit peu de chemin parce qu'on arrive à être bien en dessous de la moyenne nationale maintenant. On espère que ça va continuer. Voilà. Après, la dette partie de risque, vous l'avez, hein, fixe, variable. Tout ce qu'on emprunte aujourd'hui, c'est en fixe. Aujourd'hui, les taux sont très bas. D'ailleurs, on n'emprunte rien, c'est pas difficile. Mais si on devait emprunter, parce que même si on n'emprunte rien, tous les ans, on fait quand même des demandes d'emprunt pour voir un petit peu comment situe le marché. Et Jean-Michel, hein, les taux d'emprunt sont très faibles. Donc notre santé financière nous permet d'emprunter dans des très bonnes conditions. Bon, il se trouve que comme on gère bien, on n'a pas besoin d'emprunter. Mais si demain on avait besoin d'emprunter, on serait capable d'emprunter dans de très bonnes conditions. Voilà. Mais enfin, la question ne se pose pas. Je crois que la dernière fois qu'on avait emprunté, ça va être la première année où on est arrivé en 2014. Il y avait un emprunt qui était inscrit. On l'a actionné, mais on n'en aurait même pas eu besoin. Tous les ans, depuis 2015, on rembourse la dette, on n'a pas emprunté. Voilà. Après, bon, le fameux prêt structuré, hein, qui est toujours là, qui court jusqu'en 2032. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Donc, on suit ça de près. On a des propositions de remboursement qui sont faites par la structure de défaisance du Crédit Lyonnais. Bon, nous, on trouve que les conditions ne sont pas idéales. Ça coûte très cher de rembourser. Donc, pour l'instant, on ne rembourse pas. Voilà. Dernier point important, l'investissement. C'est le nerf de la guerre. Une fois qu'on gère bien la commune... Quand on gère bien la commune, ça veut dire quoi? C'est comme dans nos budgets à la maison. On gagne de l'argent, on en dépense. Si on en dépense trop, on n'a plus d'argent à la fin du mois. Si on fait un peu d'épargne, après, on peut investir dans la maison, on peut faire d'autres choses. Une commune, c'est pareil. On a une épargne brute qui se situe cette année à 2,6 millions. La moyenne, c'est 2 millions. Cette année exceptionnelle, 2,6 millions. Bon, ça nous permet d'investir pour la commune. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? On a inscrit 5 millions d'euros 2021. Alors, on ne fera pas tout, parce que dedans, il y a les projets qui vont se faire sur plusieurs années. Mais il y a notamment, on en parlera, les études pour la rénovation de l'école Marcel Pagnol, tous les projets qui sont sélectionnés dans le cadre du budget participatif, les subventions pour l'aide à la production logement social, donc loi SRU. Je rappelle simplement que les subventions qui ont été votées, comme celles qu'on a votées en décembre, c'est fait en fait pour que c'est... Alors, c'est pas difficile, c'est la pénalité, soit on la paye sur le budget de fonctionnement, soit on est capable d'alimenter les projets en termes de subventions, et à ce moment-là, la pénalité SRU, qui est normalement sur le budget de fonctionnement, passe sur le budget d'investissement. C'est un petit peu technique, mais c'est important de le comprendre, parce que ça impacte très fortement le budget de fonctionnement, et ça impacte très fortement le budget d'investissement, mais ce n'est pas sur le même budget, ça arrange la commune que ça passe quand même sur l'investissement. C'est pour ça qu'on a passé cette subvention en décembre, c'est pour ça qu'on tâchera cette année de passer une subvention si on arrive à trouver un logement social, parce que quand j'entends dire la maire du Pradet ne veut pas faire de logement social, c'est faux. Personne ne conteste la nécessité d'aider les publics les plus en difficulté. Faut-il encore avoir des terrains et des projets? On pense en avoir pour cette année, on verra. On espère qu'on sera en mesure de passer encore une délibération pour éviter que cette pénalité SRU n'impacte trop fortement le budget de fonctionnement et que cette pénalité soit transférée sur le budget d'investissement et par là même rendre service à des prédateurs qu'on pourrait loger. Alors ensuite, il y a aussi les subventions pour la rénovation de façade qui continuent cette année. Je crois qu'il en manque 2 ou 3, mais elles vont être faites. Là, on a vu les propriétaires, ça devrait être fait sur le premier semestre. Voilà, donc la rénovation de façade, ça continue. D'ailleurs, on peut tous le constater, on a une belle commune, on est content d'aller dans notre commune. Là aussi, on parlait d'attractivité, ça renforce l'attractivité de la commune. Donc on va continuer dans ce sens-là dans les années qui viennent. L'équipement de la cuisine centrale, on a un vieux piano de cuisine, donc il va falloir le rénover. Ce sont des investissements assez lourds. Des acquisitions foncières, vous savez qu'on a passé une délibération pour acheter le foyer logement, il va falloir actionner, donc... L'acquisition technique est en cours de. Poursuite des travaux, bien sûr, pour l'accessibilité, mise en sécurité des écoles, remplacement de véhicules, et aussi, on est en train de terminer cette année la rénovation énergétique du bâtiment communale. On entend remplacer toutes les fenêtres de la commune et on s'y sent beaucoup mieux. Isolation phonique et surtout thermique, on sera capable de faire des économies d'électricité. Donc notre politique d'investissement elle s'appuie toujours sur des politiques partenariales. Le conseil régional, le conseil départemental, TPM, la CAF, l'Europe, pourquoi pas, ce sont des projets, des demandes de subventions qui sont faites en collaboration avec eux. Et puis l'État, on espère que l'État sera au rendez-vous sur un certain nombre de financements. Ils nous prennent dans la poche de droite, s'ils peuvent nous remettre un peu dans la poche de gauche, c'est pas plus mal. Donc notamment on les attend sur un certain nombre de sujets, le stade de rugby, l'école Marcel Pagnol. Si l'État ne nous aide pas sur l'école Marcel Pagnol, on aura beaucoup de mal pour le financer. Donc les 4 millions d'euros, il va falloir les trouver. On espère que l'État saura nous aider à financer cette école de manière à ce que cette vieille école Payron puisse retrouver un peu de vie. Voilà, je crois que je vous ai fait un petit point sur les dépenses d'investissement. Donc 5 millions d'euros, je ne suis pas sûr qu'on les dépense cette année parce qu'il y a des projets en cours d'eux. Mais en tout cas, c'est l'objectif communal. Dernier point, c'est le budget annexe Régie des Transports. Vous le voyez en 2021 avec une dépense d'investissement de 200 000 euros qui correspondrait à l'achat d'un nouveau bus. On en a acheté un il y a quelques années, climatisé. J'avoue que c'est quand même bien pratique, c'est la bonne dimension. Là, il y a un bus qu'il faudrait changer aussi pour avoir un bus qui est bien calibré et transporter nos pitchouns dans les meilleures conditions possibles. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire une lecture assez brève du ROP, j'espère que j'ai pas été trop long, mais c'est toujours intéressant de partager l'avenir de la commune, l'avenir financier de la commune avec vous, que ce soit la majorité et l'opposition. On ne doute pas que vous aurez plein de questions pertinentes sur ce ROP. Le débat est ouvert, je vous laisse la parole. Qui souhaite ouvrir le bal? Monsieur Pézeri.
Oui, mais je vous remercie pour cette présentation. Bon, l'Europe, c'est une intention, donc c'est ce que vous projetez pour l'année à venir, et ça se traduira dans les faits à travers le budget primitif et d'autres budgets. Moi, je voudrais revenir sur le prélèvement SRU, puisque c'est votre cheval de bataille, c'est votre fil conducteur à chaque conseil municipal. Bon, l'État prend de l'argent. Prend de l'argent parce qu'il y a une loi qui a été votée, l'État prend de l'argent parce qu'il y a des logements sociaux à réaliser. Je vous l'ai dit, je le réaffirme aujourd'hui, donc le seuil de 20-25% est inatteignable pour la commune du Pradé, pour d'autres communes dans le Var et partout en France. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle va être votre politique pour les années à venir, puisque nous allons rentrer dans un système de PLUI, donc intercommunal. On voit que la métropole est touchée de carences sur l'ensemble des communes. Tout à l'heure, on évoquera une problématique de ZAP. Donc, vous allez devoir faire des compromis pour justement soit continuer à faire de la dette pour payer des pénalités que vous ne payez pas sur le fonctionnement, soit trouver des solutions. Voilà, donc pour moi la question de ce ROP qui me paraît importante, à part une gestion que vous affichez donc de qualité, et je vous dis on verra à l'avenir, c'est surtout votre ambition pour cette loi SRU et surtout pour répondre à ces contraintes qui... on peut le craindre, n'évolueront pas du jour au lendemain par rapport aux exigences de l'État, et on le voit avec les attitudes du préfet et de certains projets qui sont sur la commune et qui n'aboutissent pas justement parce qu'ils ne répondent pas à la SRU. Voilà mon questionnement.
J'ai pas entendu. Les projets qui n'aboutissent pas?
Oui, à cause de la loi SRU, parce qu'ils ne répondent pas à la SRU sur le territoire du Pradé.
J'ai pas entendu, peut-être sans le masque. Parce que...
Oui, excusez-moi, je le garde par nos hygiènes. Comme les micros, on devrait en avoir un chacun, parce que au niveau hygiène, c'est pas très bien. Oui, je disais qu'au niveau des projets qui sont sur la commune actuellement, il y a certains qui n'aboutissent pas, parce qu'ils ne rentrent pas dans la lecture de l'OSRU de la préfecture. Je pense au Sermonge, par exemple. Voilà, donc l'attractivité de la commune passe par de la construction, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, donc voilà. Quelle sera votre position par rapport à cette loi et votre regard sur le PLUI pour les années à venir?
D'autres observations sur l'Europe avant que je réponde? Non, sur les... Monsieur Riquel?
Oui, merci monsieur le maire. Concernant l'Europe, je voulais revenir, quant à moi, sur les charges de personnel. Effectivement, vous avez dit que ça fait débat, parce que je trouve que vous les qualifiez de pleinement maîtrisés systématiquement. C'est un peu comme les chiffres de tout à l'heure. 3,8,
ou 1,8, pour vous, c'est pareil. Hein, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Je n'ai pas compris, là, encore une fois. Vous dites, on a répondu à votre question? Pas du tout. Je ne sais pas si mes collègues ont compris quelque chose, mais vous n'avez absolument pas expliqué pourquoi ce n'est pas 3,8, mais que c'était 1,8, etc. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de nous répondre? On est là, en conseil municipal, pour débattre. Vous le dites vous-même, mais vous ne répondez pas à nos questions. Donc, bon, là, je vais en poser une. Je ne sais pas si j'aurai des réponses. Donc, vous dites pleinement maîtriser pour les charges du personnel. Regardez les chiffres, monsieur le maire. Ce n'est pas que des mots. 6,7 millions d'euros en 2018, 7 millions en 2019, 7,1 en 2020, 7,5 en 2021. Ça fait 800 000 euros en seulement 3 ans. Ça fait plus 11%. C'est pas pleinement maîtrisé. On ne peut pas qualifier ça de pleinement maîtrisé. On peut avoir des raisons. Vous pouvez nous les expliquer. Mais ne dites pas, voilà, c'est pleinement maîtrisé. Oh, le charge du personnel, je suis au top. Allez, hop, emballé, c'est pesé. 3,8, 1,8, hop, c'est pesé. Non. Il faudrait qu'on soit plus clair, que ce soit plus transparent. Donc moi, je dis non, ces charges de personnel ne sont pas maîtrisées. Plus 11%. En 3 ans. Vous nous avez expliqué que l'attribution de compensation évoluait, bon. Bah, en tout cas pas en notre avantage. Parce que vous dites ah, l'État c'est pénible, 500, 300 000 euros la dernière fois, 600 000, vous avez raison, hein, c'est pas agréable du tout, mais bon, il y a des règles du jeu. Bernard Pézeri vient de vous poser une question à ce propos, je pense que cette question est pertinente, parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on est dans cette situation et c'est le sens de la question, en tout cas moi je la comprends. Donc là, pourquoi plus 150 000 euros? Parce que là, c'est au détriment de la commune. Je pense qu'on n'a pas évalué les charges comme ça, en deux, trois mouvements. Non, on a dû faire ça correctement. À moins que là aussi, les chiffres, on les prenne un peu à la légère, je ne sais pas. Enfin, l'épargne brute, elle chute pour moi. Elle chute. C'est ce qu'on constate sur le graphe. Donc on ne peut pas dire que là, c'est super, tout va bien. C'est... Non, c'est... tout à l'heure, vous avez évoqué des chiffres erronés, je vous ai écouté. Hein. Vous avez dit une épargne brute de 2,5 millions d'euros. Non, c'est 1,5. Vous êtes trompé d'un million. Vous avez dit 2 ans pour rembourser la dette. Non, c'est 3,4. Vous pourrez réécouter la bande. Hein. Donc il faut dire le bon chiffre. J'ai l'impression que voilà... On parle, mais on ne tient pas compte de la réalité. On est un peu comme dans un récit qu'on se raconte. Voilà. Non. Soyons transparents. Donc l'épargne brute, c'est quoi? C'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Vous dites, ben en fait, le problème, c'est la pénalité SRU. Voilà, clac, ça nous impacte. Mais pas seulement, monsieur le maire, moi j'aimerais comprendre. Il y a d'un million d'écart, il y a 1,3 million d'euros, monsieur le maire. Bon, c'est vrai qu'on est impacté en partie par la pénalité SRU comme chaque année, donc là, un peu plus, ça fait un delta de quoi? D'environ 270 000 euros. Mais le reste, le million, c'est pas la loi SRU, c'est quoi? Je ne sais pas. À la lecture de ce document, je ne suis pas capable de comprendre. Il y a certainement des raisons, elles sont peut-être bonnes, mais il faut les expliquer. Moi, c'est tout ce que je demande. Et j'aimerais que tous mes collègues ici présents puissent avoir ces informations. C'est pour ça que nous sommes élus. Sinon, on reste à la maison. Ou sinon, quand on n'y comprend plus rien, on change de camp. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de ne pas être à vos côtés parce que là, vous continuez à faire cette même chose. Vous nous dites transparence, pas de problème. Moi, je parle au bras des temps, je joue la concertation. Tout à l'heure, je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Là, vous donnez des chiffres. Ayez au moins la délicatesse, le respect pour nos rôles de conseillers municipaux, de nous répondre, tout simplement. Après, si les raisons sont bonnes, moi je dirais elles sont bonnes. Je l'ai déjà fait à maintes reprises, à vos côtés, et même depuis que je suis dans l'opposition. Mais soyons honnêtes et responsables. Donc, en conclusion, votre rapport révèle une envolée des charges de personnel. Je l'ai dit, 11% en 3 ans. une chute de l'épargne brute de notre commune de 45% par rapport à 2020. Donc, une diminution de notre capacité d'autofinancement, et ceci sans raison ni explication claire pour moi. Je qualifierai votre rapport de fébrile. Alors oui, vous avez raison sur un point, il faut redoubler d'efforts. C'est ce que vous dites dans votre introduction. Et là, je partage pleinement votre point de vue. Et je vous propose aussi de vous référer au rapport de la CRC, merci, de la CRC, d'il y a quelques années, qui nous expliquait justement qu'au niveau des charges de personnel, il fallait véritablement que l'on continue nos efforts. Et on les avait engagés ensemble, et depuis, eh ben, ça n'a pas été... le cap n'a pas été tenu, de toute évidence. Voilà, je vous en remercie.
Merci, monsieur Riquel. En tout cas, je suis content de savoir qu'on partage une satisfaction. Revenir rapidement, oui, effectivement, écoutez, je crois que vous avez peut-être un petit problème avec les chiffres. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre à la page 10, où il y a l'épargne brute. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe, en fait. Vous expliquer le schéma, c'est ce qu'il y a de plus simple. Des fois, la meilleure façon d'apprendre les finances, c'est de regarder les graphiques, essayer de les comprendre. Et je suis content si je peux vous aider. Merci. Donc, si vous regardez l'année 2020, donc l'épargne brute, vous lisez combien ? En fait, c'est le petit pavé bleu, vous voyez, la colonne bleue, vous lisez combien ? Non, c'est une question.
J'essaie de... Vous me dites. Moi, je réponds volontiers à vos questions.
Bah, donc, alors, je demande, donc,
ce que je lis, c'est 2,8 millions d'euros.
Donc, on est bien d'accord. L'épargne brute, elle est 2,8 millions cette année. C'est 2,6 millions, en fait, mais c'est pas grave. 2,6 millions. Donc, c'est ça, en fait. 2019, vous lisez combien ?
Pourquoi 2,6 millions, monsieur le maire ? C'est marqué en...
2,8 millions.
Ah, je vous remercie.
Donc, 2020...
Donc, j'avais raison, 2019. C'est 2,8 millions d'euros.
Monsieur Riquelme.
Oui, monsieur le maire.
Vous me dites que vous avez du mal à comprendre. Et si vous pouvez m'expliquer, donc j'essaie de vous expliquer, il ne faut pas vous énerver. Donc 2020.
Mais je ne m'énerve pas, non, mais vous dites 2,6.
Donc c'est 2019.
2,8. Je ne m'énerve pas, je veux juste qu'on dise les bons chiffres.
2019, vous lisez combien ?
2,1.
Voilà, donc le principe de l'épargne brute, c'est ça, c'est la différence des recettes et des dépenses. Donc en 2019, c'est ça, vous avez bien fait la lecture, et 2020, c'est pareil. 2021, c'est une perspective. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est encore arrivé, c'est on projette ce qui peut se passer à l'avenir. On sera exactement sur le même système, une différence entre les recettes et les dépenses. Donc, on verra. Si on reprend l'Europe de l'année dernière, on n'était pas à 2,8 millions, on a dû mettre de prudence, de mémoire, on a dû mettre 1,8 million ou 1,9 million. 1,7 million, vous voyez, on avait mis. Bon, on a eu des bonnes surprises. Tant mieux. On a eu des droits de mutation, plus 600 000 euros. Donc, l'année dernière, si on reprenait l'Europe de l'année dernière, 2020, on était à 1,8 million, c'est ça ? Et on fait 2,8 millions. On a mieux géré la commune que prévu, il y a le Covid qui est arrivé, il y a eu moins de dépenses, il y a eu les droits de mutation plus élevés. C'est ce qu'on appelle, il y a le budget, il y a le compte administratif. Donc le compte administratif, c'est une photo de ce qui est arrivé, le budget, c'est ce qui pourrait arriver. Quand on gère bien une commune ou une entreprise, on essaye de faire attention à ce qu'on prévoit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des envolées sur les recettes, ni sur les dépenses. Donc on essaie de prendre une position prudente. La prudence incite à diminuer les recettes qu'on peut estimer, et puis à surpondérer les dépenses en se disant on peut avoir des mauvaises surprises. Il vaut mieux avoir en fin d'année des bonnes surprises que des mauvaises. Mais chacun gère comme il se le souhaite. C'est la façon dont on gère depuis un mandat. Écoutez, on s'en trouve plutôt conforté, puisque vous l'avez vu vous-même, je crois que vous avez compris au travers du diagramme que vous avez lu, qu'on avait fait une très bonne année en 2020. Donc on est vraiment sur cette ligne de conduite. Concernant les charges de personnel, c'est pareil, je vous invite à reprendre le diagramme. Il y a eu 100 000 euros d'écart entre l'année dernière et cette année, entre 7 millions et 7 millions 100. Voilà, ça fait 1,2% de calcul comme ça de tête. Donc on est très loin des 11% que vous annoncez, entre une prévision de l'année prochaine qui n'a aucun sens par rapport à une réalité d'il y a 3 ans. Donc on peut mélanger les chiffres, c'est soit on le fait à dessein, soit parce qu'on les comprend pas. Je doute que vous ne soyez pas intelligent. Monsieur Ensuite... Alors attendez, le principe dans un conseil municipal, vous parlez, on vous laisse parler, ensuite Madame Riel en parle, je parle, quelqu'un d'autre parle, on n'interrompt pas, on laisse jusqu'au bout. Donc vous me laissez parler jusqu'au bout, oui. Et après vous aurez la parole. Et il faut que je réponde à Monsieur Pézri.
Le problème,
vous avez posé une question sur la CLECT. La CLECT, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a des prévisions qui sont faites, des analyses qui sont faites. Il y a eu un cabinet qui est venu, je ne sais plus si c'était KPMG ou Ernst & Young qui est venu, je ne sais plus lequel, On a travaillé avec eux, on a redescendu toutes les lignes, on a regardé quels étaient les coûts, quelles étaient les dépenses, mais pas seulement le Pradet, toutes les communes, les grosses communes, les moyennes, les petites. On a tous fait des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations de charges, des évaluations de recettes. Une évaluation, c'est comme un budget. C'est dire, voilà, bah, l'année prochaine, on va dépenser 1 million sur cette compétence. Ça va nous ramener 800 000. Ce sont des prévisions. C'est arrivé en 2017. Depuis, c'est passé 18, 19 et 20. On est capable, aujourd'hui, d'aller au-delà des prévisions et d'analyser ce qui s'est passé. Quand on analyse ce qui s'est passé dans chacune des communes, pas que le Pradet, toutes les communes l'ont fait, de France et de Navarre et du Var. Donc on a analysé ces chiffres, et quand on a analysé ces chiffres, on s'est aperçu qu'il y avait certaines dépenses qui avaient été minorées, certaines recettes qui avaient été majorées, ou l'inverse, et chacune des communes fait l'objet d'une clause revoyure, enfin toutes les communes. Donc le procès que vous essayez de nous faire, vous pouvez le faire à chacune des communes et à la métropole. Écoutez, moi je fais de procès à personne, on travaille en bonne intelligence avec la métropole, ça se passe très bien, et on avait prévu dès le début que ça se passe comme ça, en disant écoutez, on va faire une prévision des recettes et des dépenses de charges transférées, c'est ce qui s'est passé, on fait une clause de revoyure comme c'était prévu, voilà, après on peut estimer qu'il fallait prévoir à l'euro près, ben, écoutez, tant mieux pour ceux qui savent mieux que tout le monde, il n'y a qu'à gagner les élections. Je vais répondre à M. Pézri ensuite, et je vous donnerai la parole après. Monsieur Pézri, vous avez posé un sujet peut-être plus intéressant et plus en ligne avec l'Europe. Effectivement, c'est la pénalité SRU. Alors, j'ai été assez light hein, sur le sujet aujourd'hui, justement. J'ai essayé de ne pas en parler trop, parce qu'on a déjà parlé beaucoup dans la presse. Mais puisque vous en parlez, on ne peut pas ne pas évoquer le sujet. Ouais, c'est la bonne question. Je pense que on a fait de l'acquisition foncière sur le premier mandat. Voilà, donc le pensionnat, l'entrée ouest du Pradet, on a quelques fonciers communaux qui sont à disposition, pas beaucoup, mais on en a, sur lesquels on pourra envisager de faire du logement, de façon raisonnable, parce que si on écoute les sirènes de la loi SRU, il faudrait qu'on bétonne à fond, c'est pas une volonté ni des Pradetans, ni de l'équipe municipale en place, donc on va faire du logement social, il y a un besoin aussi, il y a des gens qui nous voient, je fais une permanence en mairie tous les 15 jours sans rendez-vous, il y a beaucoup de gens qui me voient, pour des problèmes de logement, des gens qui sont souvent en grande difficulté, il faut être en capacité de les aider, ces gens-là. Donc on a aussi cette volonté de construire des logements de façon équilibrée. On l'a fait d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'on a été pénalisé un peu à... La sanction est un petit peu lourde, parce qu'on a essayé de faire des programmes, il y a eu des recours, il y a des choses qui n'ont pas été possibles, mais on a essayé, on a fait des efforts dans la direction de la production de logements sociaux. D'ailleurs, on a passé la délibération en décembre, donc voilà, on n'est pas contre le logement social, on en a fait, mais vous savez ce que c'est, vous avez été maire vous-même, c'est compliqué de sortir des projets, il faut trouver le foncier, il faut faire des projets équilibrés, il faut trouver le bailleur social, il faut que ça soit à bonne taille de terrain, pas trop grand, pas trop petit, bon quand c'est trop grand, c'est jamais un problème, mais enfin pas trop petit, ensuite il y a les zones agricoles, les zones nature, c'est chaud, vous savez vous-même, il y avait un projet d'éco-quartier qui a pris le bouillon, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a eu un recours de l'association du plan, je pense à l'époque, qui a obtenu gain de cause auprès du TA, bon ben ça c'est ni de votre faute, ni de la faute de l'équipe qui est arrivée après, c'est juste une décision de justice. Personne ne peut s'opposer à une décision de justice. Donc il y a des contraintes fortes sur nos territoires qui fait qu'on ne peut pas atteindre cette loi SRU. Pour autant, faut-il baisser les bras et ne pas produire? Non, c'est ce qu'on fait, de façon raisonnable. On le fait. Voilà. Donc notre stratégie, c'est de produire à hauteur de ce qu'on peut faire, du foncier disponible. Et puis de limiter l'amende si on peut. Donc si on peut donner des subventions à la fois pour avoir une réservation, même si on a normalement le quota est passé en préfecture, enfin si on fait des réservations comme on l'a fait avec la subvention qui est passée en décembre, ça permet quand même de loger des prédétants. Donc si possible, quand il y a des projets de logements sociaux, accompagner ces projets au travers, il y a deux choses hein, pour aider les projets de logements sociaux, c'est éventuellement cautionner au travers d'un emprunt, mais maintenant c'est une compétence qui est passée en métropole, donc c'est à la métropole de cautionner les emprunts, ce qu'elle fait. Et puis la deuxième méthode, c'est effectivement de subventionner des opérations, sachant que chaque 20 000 euros, ça donne droit à une réservation de logement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va accompagner le logement social, mais enfin on n'arrivera jamais à 25%, tout le monde en est bien conscient autour de cette table. N'empêche qu'il y a des gens qui sont en difficulté pour se loger, qu'on fera ce qui est raisonnable pour la commune, pour aider ces gens-là à se loger. On va pas. Alors vous évoquez aussi un sujet important, on sort un petit peu d'Europe, mais enfin quand même, oui, il y aura le PLUI à un moment, mais enfin la décision qui a été prise par tous les maires de la commune, c'est de faire un PLUI à l'image du territoire, pas de faire un PLUI à l'image de la loi SRU. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole? Monsieur Riquelme.
Merci, monsieur le maire.
Je reviens sur les charges de personnel. Vous n'avez pas répondu. Pourquoi vous me dites que 11% en 3 ans, ce n'est pas la réalité? Prenons ensemble le tableau. Vous l'avez fait, vous l'avez devant vous. Charges de personnel 2018, 6,7 millions d'euros. C'est ce qu'il y a en bleu. Il ne faut pas prendre le rouge, bien entendu, c'est un CTPM. Ensuite, 7 millions d'euros 2019, donc ça fait une année. Une année supplémentaire, 2,1 et la projection à 2,5. Entre 6,7 et 2,5, eh ben ça correspond à 11%. C'est mathématique. Donc je ne vois pas pourquoi vous dites « Non, monsieur Riquelme, c'est faux. Non, monsieur le maire, c'est juste. »
Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas tout à fait compris. Je crois que je vous laisse le bénéfice du doute. Je pense qu'on n'est pas compris. Vous comparez une réalisation 2017 avec une prévision de 2015.
Tout à fait. Non, 2021.
Oui, 2021. Ah oui, mais donc, à la limite, vous savez, si vous voulez faire plaisir, j'aurais pu vous mettre 6,5
millions. Ah, bon, pour la baisse.
Non, mais laissez-moi parler. Je pense qu'il y a un truc, ne vous énervez pas. On passe une bonne séance de conseil municipal ensemble. On partage des satisfactions ensemble, vous voyez, en plus. Donc, franchement, il n'y a pas besoin de s'énerver. Donc, je voulais simplement vous comparer une pomme avec une poire. Vous comparez une réalisation 2017 avec une projection de 2021. Ça n'a juste pas de sens, en fait. Je vous le dis, c'est en termes budget, en termes de finances, mais dans n'importe quel domaine. Hein. Dans n'importe quel domaine, quand vous faites un compte de résultat, un prévisionnel de compte de résultat dans le privé, c'est pareil. Vous ne pouvez pas comparer un résultat d'il y a 3 ans avec une prévision de 2001 qui, par essence, est fausse. On ne fera pas 7,5 millions les prochaines. C'est impossible. C'est une prévision. Je vous répète qu'on avait prévu l'année dernière pour les charges de personnel en 2020, on a dû faire 7,3 millions ou 7,4 millions dans le budget, je ne sais plus combien on a mis. On a déjà mis 7,5 millions l'année dernière, vous voyez. Jean-Michel Perratou me rappelle. L'année dernière, dans l'Europe, on a déjà mis 7,5 millions. On a fait 7,1 millions. On remet 7,5 millions. Peut-être que l'année prochaine, on fera 7,2 millions. Ça représentera 1,5% ou 2% d'augmentation qui correspond au GVT. Quel drame. Quel drame. Donc je pense que vous mélangez un petit peu tout, les pommes, les poires, ou des filles avec je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, je pense que vous avez... Bon, et si vous voulez, venez à la prochaine commission de finances, et on vous expliquera vraiment la différence entre le prévisionnel et la réalisation. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous expliquera tout ça.
Bien volontiers. Donc prenons, si vous voulez, la réalisation de 2020. Là, ça ira alors pour vous. Si je prends 2018, 6,7. Si je prends 2020... 7,1. On est bien d'accord. Ça fait 400 000 euros. On est bien d'accord. Ou pas. Donc ça fait une augmentation d'environ déjà 6 à 7%. On est bien d'accord. Sur 2020. Donc, on verra pour 2021. On en reparlera le cas échéant. Il y a quand même une projection. J'imagine qu'elle n'est pas fantaisiste de votre part. Parce que j'imagine que vous ne perdez pas du personnel comme ça. Vous n'en trouvez pas sur le chemin de votre mandat. Donc j'imagine que vous avez quand même à peu près une idée de votre projection. Donc, je reste sur cette position qui est évidente vis-à-vis des chiffres, y compris des montants réalisés, donc ceux de 2020, où on a bien une augmentation significative des charges de personnel et pas comme vous le dites.
Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres sujets? Non? Ah, monsieur Riquelme, allez-y.
Merci, monsieur le maire. Concernant l'investissement, vous nous parlez d'environ 5 millions d'euros. Là aussi, c'est une projection. On peut dire 5, on peut dire 1, on peut dire n'importe quoi. J'espère que non, vous dites des choses sérieuses et que donc c'est quelque chose d'à peu près réaliste. Maintenant, bon, je commence à en douter. Aucune précision sur le détail de ces 5 millions. Je suis incapable de savoir pourquoi, effectivement, vous annoncez 5. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire, et puis basta. Non, monsieur le maire, c'est pas ça la transparence dont vous nous parlez depuis le début du mandat. La concertation, l'écoute. Non. Expliquez-nous, donnez-nous au moins le récapitulatif, parce qu'après vous mettez certains points, l'école Pagnol, donc là je sais qu'il y a un budget, je l'ai vu lors de la commission avec Madame Gomez, mais on découvre après qu'il y a une décision de Monsieur le maire sur un projet dont je n'avais jamais entendu parler, au rugby, avec une tribune, ça fait à peu près 1 million d'euros. Là, elle apparaît pas dans la liste. Il y a peut-être une logique, mais je n'en sais rien. Moi, je préférerais avoir un tableau qui explique, comme beaucoup d'autres communes le font, ben voilà, on imagine 300 000 là, 200 000 là, et on comprend un petit peu d'où ça sort, et ça sort pas du chapeau. Mais c'est vrai que, bon, les chiffres, avec vous, c'est un peu du chapeau. Ouais, mais moi, j'imagine ça. C'est comme l'histoire de la convention du conseil municipal dernier. C'est 3,8, c'est 1,8, clac, 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 clac. Et hop, monsieur Riquel, c'est pas bien grave, hein, après tout. J'ai gagné les élections, alors vous avez qu'à passer, même si vous venez pas, ça m'arrange. Mais non, monsieur le maire, c'est pas ça la concertation. C'est pas parce que vous avez gagné les élections que vous avez le droit de nous mépriser ou d'avoir des logiques comme ça, complètement fantaisistes, sans nous donner d'explication. Non, je comprends pas. Donc si on pouvait avoir une explication sur ces investissements, ben, ça serait intéressant. Maintenant, si vous ne souhaitez pas nous en parler, eh ben, c'est pas grave, on s'en passera, on a l'habitude.
Alors, plusieurs choses, là. On est dans un débat d'orientation.